Bonjour à tous. Êtes-vous prêts pour une immersion dans le monde des Legal Operations? Le 15 juin dernier, le cabinet Oxygène Plus a organisé un webinaire des plus captivants sur ce sujet incontournable. Oxygène Plus propose aux directions juridiques des prestations juridiques internalisées ou externalisées, adaptées à leurs besoins spécifiques. Que ce soit pour gérer une situation ponctuelle, faire face à une augmentation d'activité ou réaliser un projet particulier, Oxygène Plus est là pour vous accompagner. Si vous avez manqué le webinaire ou le replay, nous vous proposons aujourd'hui de l'écouter en podcast. Il est également disponible sur la chaîne YouTube d'Oxygène Plus et sur le site Tout droit tout simple dans la rubrique vidéo. Imaginez-vous sur une plage paradisiaque, au bord d'une piscine rafraîchissante ou en pleine randonnée, profitant de vos vacances. Et si vous en profitiez pour découvrir cette fonction novatrice qui vient renforcer les directions juridiques? Vous avez de la chance, cet épisode est là pour vous satisfaire. Avec notre expertise, Aurélie Manet-Lefrançois et moi-même, toutes deux anciennes avocates et directrices juridiques, allons vous dévoiler tous les secrets des Legal Operations. Avec des exemples concrets, vous découvrirez nos missions, comment débute une mission, comment obtenir un budget et les résultats rapides que vous pouvez obtenir dans vos projets. On vous dit tout. Aurélie et moi travaillons comme manager de transition en Legal Operations et sommes prêtes à relever les défis de vos directions juridiques. N'hésitez pas à contacter Oxygène Plus et en particulier Stéphane Lefebvre et Anna Gonzalez si vous avez besoin d'une mission de management de transition en Legal Operations ou si vous souhaitez simplement échanger sur ce sujet passionnant. Alors, êtes-vous prêts? C'est parti!
Merci, bienvenue à tous pendant cette heure de déjeuner pour évoquer les Legal Ops. On est ensemble pendant 30 à 45 minutes maximum. Alors déjà, je me présente, Stéphane Lefebvre, hein, je suis le Managing Partner d'Oxygène Plus et aujourd'hui, on a souhaité faire ce webinaire pour parler tout spécifiquement des Legal Ops. Alors, avec nous, avec moi, deux autres personnes vont intervenir et je suis content que Delphine et Aurélie soient avec nous. Tout d'abord, alors Delphine Bordier, avec ses lunettes rouges et son nom est juste en dessous, bien sûr. Donc Delphine, tu, pour te présenter très sommairement et à l'occasion de l'échange, on va égrainer ce que tu as pu faire dans le passé. Tu es avocate. Tu as été avocate, en tout cas, tu as été directrice juridique en France, mais aussi à l'étranger. Et depuis maintenant quelques années, tu te focuses sur les Legal Ops, qui est une vraie passion. On travaille ensemble au sein de l'Oxygène depuis 2019. Et puis, en termes de focus, en échangeant avec toi encore ces derniers temps, on a bien compris que c'était tes sujets de prédilection, quelque part, étaient l'organisation, la structuration, l'optimisation des process, mais très important, je pense, le recentrage sur l'humain, et bien sûr, qui est essentiel. Voilà, donc bienvenue, Delphine, pour partager avec nous ton savoir et ton expertise. Aurélie aussi qui est avec nous, Manet, elle a un peu le même parcours, mais c'est des grands atouts chez nous. Avocate aussi, hein, tu as été aussi responsable juridique, tu as travaillé sur trois continents, et notamment, parce que c'est un petit peu symptomatique, c'est que tu as travaillé longtemps en Chine, tu as même appris chinois, porté sur les langues, et tu interviens de plus en plus aussi sur les sujets Legal Ops. Et tu travailles avec Oxygène aussi depuis quelques années sur plusieurs sujets. Voilà. Un focus particulier aussi, c'est sur le legal design. Je souhaitais le souligner. Plus globalement, le langage, rendre clair ce qui n'est pas très clair. Hein, on pourra en parler dans quelques exemples. La linguistique, l'environnement multiculturel aussi, très important. Et le digital, et ça c'est assez notable puisque tu sais coder, hein, et tu sais travailler sur les legal bots, donc ça c'est pas commun, on va dire. Voilà. Avant de rentrer dans le cœur du sujet de legal ops, un mot sur Oxygène. Oxygène a 8-9 ans d'existence. On réalise des missions auprès des directions juridiques. Nos clients ce sont peu ou quasi exclusivement des directions juridiques qui ont besoin d'un support sur tous les domaines du droit, droit des contrats, compliance, tous les sujets, droit des sociétés, etc. Je ne vais pas tous les égrener. Et c'est tous les sujets qui préoccupent les directions juridiques, et c'est pour ça aussi qu'on fait des Legal Ops, parce que c'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité pour les directions juridiques. On a deux de nos intervenantes qui sont présentes aujourd'hui. Ces missions en Legal Ops, elles peuvent être de deux natures. Pour des directions juridiques qui n'ont pas de Legal Ops, ou pas encore, et qui sont contents d'avoir quelqu'un qui vient en mission chez eux pendant quelques semaines, quelques mois, pour mettre en place ou pour faire vivre ce qui a été déjà initié, par exemple. Ça, c'est le premier cas. Et puis, on a aussi, pour les directions juridiques, une autre situation où il y a déjà un Legal Ops ou une petite équipe, parce que ce ne sont pas des grandes équipes de Legal Ops, et on peut intervenir plus ponctuellement en renfort pour venir renforcer, pour venir mettre en place ce qui existe déjà et qu'il faut renforcer. Voilà, en quelques mots, ce que nous faisons. Alors, pour commencer dans le vif du sujet, une première chose, c'est de savoir de quoi on parle Legal Ops. Alors, on prend le prérequis que ceux qui nous écoutent savent déjà ce que c'est et qu'on ne découvre pas. Hein. Mais peut-être, Delphine, peux-tu nous redire de quoi on parle ? C'est quoi les Legal Ops ?
Oui. Tout d'abord, merci d'être tous présents à ce webinaire aujourd'hui. Merci Stéphane pour cette présentation et Maëlys pour l'organisation du webinaire. Je suis ravie d'être avec vous et Aurélie pour parler des Legal Ops. Alors effectivement, c'est quoi les Legal Ops ? Parce qu'on parle beaucoup de cette nouvelle fonction émergente en France. Alors, il n'y a pas une définition unique, je vais vous donner la mienne. En gros, les Legal Ops, c'est vraiment une fonction pluridisciplinaire qui va aider les directions juridiques à devenir créatrices de valeur, comme une BU en fait, c'est-à-dire protéger les intérêts de l'entreprise d'abord et accélérer le business, c'est-à-dire faire en sorte que le droit soit un avantage économique. Le Legal Ops, il doit avoir une vision globale, donc il n'est plus dans les dossiers juridiques, mais par contre, il va faire en sorte de dégager du temps aux juristes. Et donc, cette fonction-là, elle va permettre d'optimiser en fait la manière dont les services juridiques sont fournis dans l'entreprise, que ce soit par les coûts, la qualité, la rapidité des prestations, etc. Donc, en fait, c'est un chef d'orchestre opérationnel de la direction juridique. Il va travailler avec le directeur juridique, évidemment, c'est un peu son bras droit, avec les juristes, mais aussi avec toutes les parties prenantes de l'entreprise. Et ça, c'est super important. Il n'est pas là que pour les juristes, en fait. Hein. Donc, il échange, il va vraiment échanger aussi avec le directeur juridique sur les décisions stratégiques pour apporter une plus-value business, process, organisation. Je vous donne un chiffre, mais c'est important. Un juriste, il passe en moyenne 1 heure sur 4 à effectuer des tâches administratives. C'est pas de mon chapeau. Hein. C'est une étude de EY et de Harvard Business School de 2021. Donc, même si les chiffres ont un petit peu bougé, je ne pense pas qu'ils aient grandement évolué. Donc, le Legal Ops, en fait, il joue un rôle stratégique. Il va simplifier le quotidien des juristes. Il va leur permettre, en fait, de se concentrer sur leur cœur de métier, c'est-à-dire le conseil, la gestion des risques et des tâches à forte valeur ajoutée. Et donc, ça passe par des process, des méthodes d'organisation, peut-être de la digitalisation, de l'automatisation, du knowledge management, de la communication, de RH. Enfin, voilà, c'est très vaste, en fait, comme sujet. Je ne vais pas tout égrener là, parce qu'on va en rentrer dans les détails plus tard. Mais voilà, en gros, ce que je peux vous dire sur cette définition.
Écoute, merci beaucoup. Et je retiens la notion de plus-value. On y reviendra après, parce que c'est aussi de se dire, voilà, quelle est vraiment la plus-value. Une question peut-être pour toi aussi, Aurélie, sur la nouveauté. C'est vraiment nouveau, les Legal Ops ? Est-ce que ce n'est pas le rôle du directeur ou de la directrice juridique ? Et en quoi il y a quelque chose de nouveau qui se passe depuis maintenant quelques années, hein ? Voilà, quelle est ta perception par rapport à ça ?
Déjà, je rejoins Delphine. Hein. Merci Stéphane. Moi aussi, je suis ravie d'être là avec vous pour partager, pour discuter de ce sujet très en vogue que sont les Legal Ops. Et pour répondre à ta question, non, ce n'est pas nouveau, d'une certaine manière. Ce n'est pas nouveau parce que les directeurs juridiques font déjà cela. Ils mènent déjà des projets transverses tant bien que mal au milieu de la multitude de tâches qui leur incombent. Ils ont aussi des projets transverses d'organisation, de simplification, de gestion des talents, d'automatisation, de digitalisation, parce que ça aussi, c'est un grand, grand sujet hein, actuellement. Ouais. Le problème, c'est qu'ils sont un petit peu débordés. Donc, ce n'est pas nouveau. Et en même temps, ce qui est nouveau, c'est que ça se professionnalise. C'est-à-dire qu'ils faisaient ça au milieu de plein d'autres choses. Et aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils ont besoin d'aide dans certaines situations, que c'est devenu une fonction à part entière. C'est un job à part entière qui prend… c'est un temps plein des fois à part entière. En tout cas, c'est vraiment une fonction qui est identifiée, qui se professionnalise. Elle est récente en France, ça fait quelques années. En revanche, aux États-Unis, elle a 20 ans d'ancienneté. Donc, ouais. Ils ont un petit peu d'avance, ils sont un petit peu plus rompus. Quand on en parle d'ailleurs en France, on rencontre des fois quelques réticences au sujet, en disant, mais c'est déjà en effet fait par les directeurs juridiques. Oui, oui, mais c'est fait en périphérie, c'est fait pas à fond, c'est des fois pas satisfaisant parce qu'ils n'ont plus le temps de le faire.
Et donc, c'est, pour rebondir, c'est d'où l'intérêt des consultants en LegalOps. Alors, il y a nous, il y en a d'autres, bien sûr. Mais c'est ça, c'est quoi les plus-values et qu'est-ce qu'on va demander, qu'est-ce qu'on attend d'un consultant en LegalOps qui vient aider comme ça une direction juridique?
Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit le directeur juridique, c'est déjà ce qu'il veut faire et donc on est plus dans une mission qui est d'exécution. Mmh. Il peut y avoir aussi un renfort, comme tu le disais. Un renfort d'une équipe existante, ils ont déjà établi une feuille de route. Et puis, on peut venir en terrain vierge aussi, finalement. Et il va s'agir de faire soit un état des lieux sur un sujet donné, sur quelque chose de plus global, sur la direction juridique, pour amorcer une démarche de transformation de la direction juridique, peut-être. Et puis, mettre en place un certain nombre de sujets prioritaires et puis commencer par transformer la direction juridique, améliorer le quotidien des juristes, simplifier les process, améliorer le bien-être aussi des juristes. Puis, remettre aussi la direction juridique au centre de la chaîne de valeur de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, on a un petit peu un maillon pas tout à fait considéré des fois, alors qu'on est central, on est un pivot dans l'entreprise et on l'est de plus en plus.
Alors, comme tu l'as évoqué, ça peut aussi partir un petit peu dans tous les sens. Donc, là, peut-être qu'il faut prioriser. Enfin, je ne sais pas, Delphine, quelle est ta perception par rapport à ça? Il faut définir des priorités dans une mission LegalOps ou ça part dans tous les sens? Il faut recadrer, j'imagine. Quelle est ta perception et ton vécu par rapport à ça?
Alors, effectivement, c'est une très bonne question. Il ne faut effectivement pas partir dans tous les sens. Enfin, il faut essayer, en tout cas. Et je pense que pour les directeurs juridiques et tristes, alors, quand je dis directeur, j'englobe... toujours, hein. qui nous écoute, en fait, il y a vraiment deux questions à vous poser. La première, c'est quelles sont les priorités de l'entreprise et quels sont les projets prioritaires de la direction juridique? Parce qu'il faut vraiment que vous ayez en tête les priorités de l'une et de l'autre pour les faire se rencontrer.
C'est un alignement.
Je vous donne un exemple, deux exemples. Si, par exemple, la priorité pour l'entreprise et pour la direction juridique, c'est de conclure le plus de contrats possible avec des process efficaces pour accroître votre activité. Peut-être que la priorité, ça va être d'automatiser certains process et puis peut-être de trouver le bon outil adapté pour gérer vos cycles contractuels, donc typiquement un CLM. Par contre, si votre priorité, ce n'est pas du tout celle-là, mais c'est de dire, bon, moi j'ai un problème parce que il faut que je dégage du temps aux juristes qui passent trop d'heures à des tâches administratives, qui sont sans grande valeur ajoutée finalement, et ben là, on va pouvoir peut-être commencer par élaborer des modèles standardisés. Alors, on pense toujours au NDA, mais c'est vrai, ça peut être, pour accélérer par exemple les délais d'exécution tout en garantissant la cohérence et la conformité. Et ça va faire gagner du temps aux juristes et aux opérationnels. Ça peut être aussi, par exemple, de créer un intranet pour mettre à disposition de l'information juridique. Voilà, donc vous voyez que là, les priorités que vous allez dégager, en fait, vont vous permettre de savoir quel est le projet, en fait, que vous voulez mettre, finalement, en place, plus ou moins à court terme. Et la deuxième question, c'est comment vous gérez ces priorités sans alourdir, en fait, la charge de votre équipe, ou la vôtre, même les deux. Est-ce que vous avez effectivement les ressources en interne? Est-ce que vous avez besoin d'un coup de pouce ponctuellement Alors, moi, je l'ai vécu effectivement aussi en tant que directrice juridique, hein, comme l'a dit Aurélie, mais lorsque les projets deviennent de plus grande envergure, ou quand ils sont sous-dimensionnés au départ, le risque, en fait, c'est qu'ils soient abandonnés ou délaissés. Et là, pour vous, c'est, pour directeur juridique, c'est l'enfer, parce que du coup, le projet ne va pas aboutir. Et après, pour aller demander du budget ou des ressources, ça va être très compliqué. Donc ça, c'est la priorisation des tâches, elle est vraiment cruciale au départ.
Et elle va l'être sur la digitalisation en particulier, puisque c'est un exemple qu'on entend souvent. Beaucoup de DJ décident de se digitaliser. Par manque de temps, on prend pas assez de temps pour faire un état des lieux des besoins. Et donc, on n'a pas forcément le bon outil. C'est chronophage en fonction des outils identifiés. Donc, c'est très important. Voilà, moi, je rejoins Delphine. Il faut vraiment… Et c'est là où voilà, on est, les juristes n'ont pas le temps, il y a une complexification des sujets. Donc voilà.
Et vraiment, enfin…
Vraiment mettre le curseur au bon endroit.
Oui, excuse-moi, Aurélie. Et pour le coup, vraiment, pour toutes les deux, c'est du vécu. Enfin, moi, je sais que j'ai fait des missions où il y a un outil qui avait échoué. Enfin, il n'avait pas pu être mis en place. Et après, derrière, ils avaient réussi à en trouver un autre et à faire en sorte que… Mais ils avaient attendu plus d'un an pour ça. Donc, c'était très compliqué, vraiment. Hein.
Ouais, d'échec. Évidemment, ça va de soi, mais…
Oui, c'est plus difficile.
D'abord, c'est du budget perdu, et puis les équipes n'y retournent pas, et puis un outil qui est mal calibré au démarrage, donc c'est une charge supplémentaire pour les juristes qui passent du temps à charger, entre guillemets, l'outil. Donc voilà, c'est des exemples un petit peu comme ça, et en effet, c'est du vécu, comme le dit Delphine. Donc, c'est pour ça que la feuille de route, les priorités, c'est très important, parce qu'il faut des fois avoir des priorités qui sont une priorité, un point, et ne pas trop en faire. Et c'est là où il faut être clair.
Mais c'est là aussi, et je rebondis sur ce que tu disais tout d'abord au début, Delphine, mais Aurélie qui dit un peu la même chose, c'est la notion de chef d'orchestre. Votre rôle, il va beaucoup être là, c'est d'organisation, de prévoir des priorités, de discuter
chef
avec
de projet,
le directeur juridique, être le chef de projet d'un changement, d'une transformation.
Oui, tout à fait.
Donc, il faut quand même du doigté parce que les gens n'aiment pas tellement le changement parfois. Tout le monde le demande et au final, quand ça vient changer son quotidien que l'on aime, ça peut perturber. Donc, il faut du doigté, non, quand même.
Il faut de l'empathie.
Et c'est vrai que d'avoir été dans la peau d'un directeur juridique, ça aide beaucoup parce qu'on comprend parfaitement, et d'avoir été aussi juriste, même sans directeur juridique, mais on comprend parfaitement bien les besoins et les attentes et les contraintes, en fait, en interne. Donc on arrive vraiment bien à se mettre dans leur basket, si je puis dire. Et donc là, l'empathie, effectivement, est très importante.
Notre vécu nous permet aussi de désamorcer. En effet, il y a des personnes qui sont plus ou moins réticentes au changement. Et comme on connaît leur vécu, qu'on a la même expérience qu'eux, voilà, on peut par des exemples aussi pouvoir échanger avec eux, arriver à mettre en place une connexion, une relation. Donc, c'est très important.
Et je voudrais aussi mettre en brèche l'idée que quand on transforme, quand on digitalise, etc., est-ce que le directeur juridique a comme objectif de diminuer ses effectifs ou est-ce qu'il a cette contrainte de sa direction générale en disant écoute, avance sur des objets du digital, avance pour améliorer tes process et puis on va réduire la direction juridique ou…
Non, alors pour l'avoir vécu, non, jamais.
C'est vraiment pas ça ou…
C'est pas du tout l'objectif. D'accord. C'est jamais cet objectif. En fait, l'objectif, c'est vraiment améliorer le bien-être des équipes et des process et la performance de l'équipe. Mais c'est en aucun cas, enfin vraiment, faut pas du tout avoir ça en tête. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais vu, ça n'a jamais été une demande du tout. C'était vraiment pour améliorer, faire en sorte de faire gagner du temps et donc du bien-être et aussi de la visibilité.
Et aussi pour l'entreprise.
Bien sûr.
On est aussi sur la gestion des ressources internes parce qu'une équipe qui fait toujours des tâches répétitives, récurrentes, elle est un petit peu lassée. Donc, l'idée de la digitalisation, de l'automatisation, c'est aussi d'automatiser des fois les tâches qui sont récurrentes et de permettre de dégager du temps aux jurys sur des sujets à plus forte valeur ajoutée.
Et de les remotiver.
Donc, c'est le bien-être parce que c'est remotiver ses équipes et faire évoluer leur travail Et donc, sans changer les personnes de place dans l'entreprise, on fait évoluer leur métier. Donc, ça remotive les équipes.
Et ça veut dire aussi retenir des talents. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué de les retenir. Oui. Donc, une direction juridique qui sera innovante, elle va avoir plus de facilité à retenir ses talents, à les faire évoluer, qu'une direction juridique qui n'innove pas du tout et qui n'a pas de projet, en fait.
Et justement, sur l'amélioration du travail des juristes pour éviter qu'un jury, enfin, une heure sur quatre soit passée dans les tâches administratives, vous avez l'une ou l'autre quelques exemples, peut-être, enfin, je ne sais pas, de projets ou de ce qui a pu être mis en place, sans dévoiler bien sûr des secrets, mais qui, d'une manière très opérationnelle et pragmatique, et qui montre que ça a apporté de la plus-value, oui.
Oui, ah ben moi je peux vous donner quelques exemples si vous voulez. Mais par exemple, la mise en place de process pour fluidifier les demandes des opérationnels. Parce que souvent, donc ce qu'on appelle le ticketing, on met en place des workflows. Enfin, parfois, il n'y a pas de workflow, c'est-à-dire que les opérationnels, bah, comment ils font leurs demandes? Par email ou par téléphone.
Ouais.
Voilà. Et c'est des échanges incessants de. Je l'ai vécu, hein, donc je sais très bien.
Donc, je crois qu'on l'a tous vécu.
On l'a tous.
C'est vraiment des échanges parfois très fluides, parfois moins. Enfin, voilà. Mais c'est très long. Et surtout, on passe son temps à reposer toujours les mêmes questions, en fait. Donc, mettre en place un process, mais avec l'appui de la direction juridique, mais aussi des opérationnels, parce qu'eux aussi, il faut qu'ils comprennent ce flow, et aussi peut-être en utilisant, enfin sûrement même le legal design, tout ça, ça par exemple, c'est très concret, c'est pas des choses très compliquées à mettre en place, il n'y a pas besoin d'un projet sur 6 mois, et ça peut être tout de suite vraiment très opérationnel et un gain de temps, et pour les juristes, mais pas seulement. Pour aussi les opérationnels. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est par exemple allouer les bonnes ressources dans la direction juridique. Et quand je dis bonnes ressources, c'est aussi allouer les bonnes tâches aux bonnes personnes. Parce qu'il peut arriver, bon, tout le monde a son précaré, mais il peut arriver en fait qu'il y ait des gens qui fassent un peu les mêmes choses. Les opérationnels, du coup, savent pas très bien où il faut, qui il faut contacter. Ils contactent les deux. Enfin, il y a plein de choses comme ça à mettre en place. Mais pour ça, il faut détecter, en fait. Ouais. Il faut détecter les pain points. Il faut savoir où est-ce qu'il y a des points de friction. Voilà. Donc, moi, je sais que j'ai eu aussi à évaluer, en fait, l'opportunité d'externaliser certaines fonctions. Et là, c'était pas du tout pour remplacer un juriste ou le faire partir. C'était pour lui permettre, en fait, de gagner du temps pour faire d'autres choses à plus forte valeur ajoutée et lui permettre même de passer cadre, parce que c'était une paralegal. Donc, ça peut vraiment aussi être un moteur, en fait, pour les équipes et pour évoluer dans l'entreprise, quoi.
Ouais, merci. Aurélie, je t'en prie.
Oui, et du coup, moi, ça me permet de rebondir parce que tu parlais de legal design et en effet, l'outil principal du LegalOps, c'est le legal design, c'est-à-dire c'est une méthodologie qui est basée sur le centrage utilisateur. C'est une nouvelle méthode de travail qui permet aux juristes de travailler leur production juridique en fonction des besoins d'un utilisateur. Et c'est l'outil du LegalOps. Pourquoi? Parce qu'évidemment, quand on mène des projets comme, par exemple, simplifier les process, etc., par exemple, si on veut mettre en place un process de saisine, par exemple, de la direction juridique, qui était ton premier exemple, moi, j'entends, et c'est du vécu, « Ah, mais oui, mais on fait ça, mais ils ne veulent pas utiliser notre document, notre checklist, par exemple. » Mmh. Eh bien oui, alors, et donc c'est là où tu parlais aussi de zone de friction, je rebondis, zone de friction, le legal ops, le legal design, c'est se dire, mon utilisateur, c'est mon interlocuteur business, pourquoi ne veut-il pas utiliser ma checklist? Donc je m'intéresse et donc j'utilise l'empathie pour comprendre son besoin. Et à partir, donc c'est là où le legal ops, il est pluridisciplinaire, il est chef de projet, on travaille avec les autres métiers, donc c'est-à-dire qu'on va mettre en place des outils dont on a travailler avec nos interlocuteurs pour s'assurer qu'ils soient utilisés. Parce que ce qui est frustrant aussi pour les directions juridiques aujourd'hui, c'est qu'on met en place tout un tas d'outils, mais en ayant uniquement le prisme de la DG et en oubliant le prisme de nos utilisateurs. Et donc, travailler des heures à un projet dont on est extrêmement fier, mais qui n'est jamais utilisé, c'est frustrant. Donc, le LegalOps, il est là pour ça et il utilise le legal design qu'il applique à tout ce qu'il fait. Et c'est très, très important.
Et ça rend fluide, en fait, toutes ces relations entre départements.
Et vraiment, le legal design, donc, on forme également les équipes juridiques pour leur permettre aussi d'améliorer leur production
Alors ça, oui, ça me paraissait important aussi parce que c'est ça, c'est pas juste dire tiens, vous devez faire ceci ou cela, c'est que une partie, et je sais qu'Aurélie, que tu travailles beaucoup là-dessus, c'est de former en interne et de se dire soit pour toute la direction juridique, soit pour les 1, 2, 3 qu'on arrive à identifier qui ont de l'appétit sur ces sujets, tiens, on va vous donner les clés de ce que c'est que le legal design, et puis après, ben voilà, vous avez les cartes, et allez-y, développez dans votre structure, c'est ça?
Oui, oui. En plus, c'est vraiment un changement d'approche, de façon de travailler, donc c'est assez long, selon l'expérience du juriste, évidemment, ça met plus de temps ou non à changer comme état d'esprit. On est sur un état d'esprit avec des outils, et donc il faut former les équipes pour qu'elles puissent aussi, voilà, donc ça fait partie des choses qu'on peut mettre en place en tant que Legal Ops, former ses équipes. Moi, je fais déjà beaucoup de formations, effectivement, je fais travailler sur des cas pratiques, et puis le legal design, après, on l'applique au quotidien dans la digitalisation, par exemple, quand on met en place des legal chatbots. Un legal chatbot, c'est quoi? C'est un FAQ un petit peu animé, hein, on va dire, avec un joli petit génie, par exemple, qui va vous répondre.
Et ça donc, marche, ça? Ça marche vraiment,
ça? Marche. Ah, c'est super. Oui, c'est super. Marche. C'est super, pourquoi? Parce que l'une des récriminations permanentes qu'on entend des équipes, c'est qu'il n'y a pas assez de juristes et qu'on met trop de temps à leur répondre. Et donc, leur dire qu'ils ont un outil dispo 7 sur 7, 24 heures sur 24,
oui, en saison… Les sujets juridiques sont souvent, comme tu le sais, assez complexes. Donc, quand même, quand tu t'adresses à un chatbot, tu peux avoir…
Mais pour les questions récurrentes…
L'intelligence artificielle arrive et va peut-être révolutionner les choses.
Non, mais tu as… en fait, c'est là où il faut faire une analyse. Quand tu conçois un chatbot, quand tu as dans l'idée de concevoir un chatbot, tu utilises la méthode du legal design déjà pour savoir si c'est un vrai besoin. Ça répond à une zone de friction dans ta relation avec tes clients internes. Et à partir de là, si tu estimes qu'en effet un chatbot est pertinent, tu vas le mettre en place, tu vas le concevoir par rapport aux demandes de tes utilisateurs, mais pas que. Voilà, c'est encore un travail transverse. Donc, on est encore chef de projet. Et on va utiliser l'un des outils majeurs du legal design, qui est le langage clair. Parce que si on met en place un outil où nos clients sont autonomes, s'il n'est pas clair… Ça ne va pas servir. Et puis après, c'est un premier niveau de réponse, on est bien d'accord, mais on sait très bien que tu disais décharger de cette heure où on passe à répondre à des tâches administratives ou des questions récurrentes, ces questions récurrentes, on peut les automatiser, on peut même mettre à disposition des documents dans des chatbots. D'accord. Donc, c'est une vraie manière de décharger la direction juridique et d'améliorer le bien-être des équipes aussi.
D'accord. Delphine, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça, ce point précis des chatbots ou pas, non?
Non, c'est vraiment ce que dit Aurélie. C'est vrai que sur le legal design, en fait, la première étape, parce qu'effectivement, le legal design, c'est une approche et c'est une méthode bien précise, hein, c'est pas n'importe quoi. Le langage clair, c'est vraiment la première étape. Et si les équipes n'ont pas le temps ou n'ont pas besoin ou ne veulent pas aller se former au legal design, déjà, le langage clair, moi, je l'ai fait à chaque fois dans les entreprises, ça va leur servir dans tout. Pas seulement pour des workflows, mais même dans un email, dans un process, dans un contrat, il faut que ça, ce soit appréhendé par les juristes. Ça, c'est sûr.
Ça va servir aussi pour automatiser des contrats. Si tu veux automatiser des contrats, il faut que la trame que les utilisateurs suivent pour remplir leur contrat et être autonome soit claire. Si elle n'est pas claire, et on revient vers le juriste. Donc, c'est vraiment, ça s'applique à tout.
Okay. Je voulais revenir sur la notion de plus-value. On a déjà pas mal parlé depuis qu'on a démarré, mais c'est toujours difficile à mesurer une plus-value. Mais néanmoins, les entreprises sont très sensibles à la notion de plus-value. Et de la qualifier, de la quantifier. Comment concrètement on peut faire? Parce que souvent, la faiblesse de tout ça, c'est un directeur juridique va dire « Oui, ça va m'apporter de la plus-value. » Et puis, on l'attend au tournant en disant « Mais ça a vraiment changé ta vie. Prouve-le-moi, quoi. Je viens de mettre de l'argent sur la table. C'est quoi le retour, là ?» On sait mesurer ça, alors? Oui, Delphine?
Oui, on sait mesurer. Alors… C'est vrai que si on n'a aucune donnée au départ, ça va être plus difficile de le mesurer. Mais on en a forcément. Ce qu'il y a, c'est que les données dans les directions juridiques ne sont pas forcément bien exploitées ou même exploitées tout court. Mais quand on a un minimum de données, une fois qu'on lance une mission, on va pouvoir définir les objectifs de cette mission aussi, c'est-à-dire des KPI, les objectifs qu'on veut atteindre. Et l'impact des améliorations, elle peut être mesurée en recueillant donc ces données sur, par exemple, des délais de traitement à X, combien de temps il faut pour qu'un contrat sorte signé. Aujourd'hui, même si vous n'avez pas des données bien précises, vos juristes, ils peuvent le savoir. Donc ça, c'est quand même des données. Ça, c'est sur les délais de traitement, sur le taux de conformité, sur les litiges que vous avez évités, sur des indicateurs vraiment de performance clés, en fait. Et puis après, il faut aussi avoir des quick wins, c'est ce que j'appelle des choses mesurables, chiffrables rapidement. Et ça, par exemple, moi, je sais que je l'avais mesuré vraiment en heures pour chaque juriste. On avait fait un workflow sur un problème de facturation. Les juristes passaient beaucoup de temps sur la facturation et il y avait eu un gain de temps que j'avais mesuré en heures. Et chaque juriste, en fait, gagnait 5 heures par semaine de temps de travail. Donc oui, ça se mesure vraiment très concrètement, en fait. Et puis après, il y a d'autres mesures qui sont plus subtiles, qui ne sont pas forcément en termes de temps, mais qui sont sur l'ambiance générale entre les départements, sur
oui, parce que ça valorise la direction juridique voilà. De démontrer.
Voilà, sur les écrits qui sont mieux compris par le legal design. Et puis après, il faut quand même un suivi. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi procéder parfois avec des sondages, des enquêtes de satisfaction interne, etc. Donc, oui, ça se mesure et ce n'est pas si compliqué à mettre en place.
Oui, Aurélie, pardon. Tu voulais ajouter quelque chose ou compléter, oui.
Non, en fait, on peut en effet faire des sondages, demander à nos clients s'ils sont satisfaits. Ça, c'est mesurable, on en tire des statistiques. Alors, quand on fait ça, il faut être précis, hein, il faut avoir des questions ciblées. On n'est pas sur la question « est-ce que tu es content du département juridique hein ?» Quand on fait ce type de questionnaire-là, et c'est aussi le job du Legal Ops, hein, oui. C'est de construire ce questionnaire en étant ciblé, en sachant ce qu'on veut en tirer comme mesure. Et en présentant pour présenter ce sujet. Pourquoi le présenter ?
Parce que je le revois à quelle heure, chérie ?
Les caméras, non, les. Parce que les aléas du direct avec les micros.
Sujet des quick wins de Delphine, l'émission Legal Ops, ça peut être des missions qui vont être d'une durée limitée sur un sujet. Et. Ou ça peut être des durées plus grandes. Donc, voilà, ça permet aussi d'avoir une présentation de ce qu'on a réalisé. Si on a une mission qui est extrêmement ciblée, par exemple, sur un sujet donné, ça va permettre de présenter un résultat de la mission. Et ça sert à quoi d'avoir un résultat de la mission, hein, Delphine?
Ça sert à quoi,
mission ciblée avec résultat et présentation et sondage. Qu'est-ce qu'on en fait? On en discutait l'autre jour.
Bah oui, le sujet aussi budget, quoi. Enfin, c'est vraiment.
C'était un peu, voilà, le sujet aussi de ouais. Presque un peu de fin, parce que c'est un élément important. Mais c'est, ouais. Tout ça, ça coûte combien? C'est des gros projets? C'est.
Alors.
De quoi on parle? Quelle est la durée d'une mission en Legal Ops?
C'est variable.
C'est très variable. Enfin, vas-y, Aurélie, si tu veux.
Non, mais c'est variable parce que ça va dépendre du besoin identifié ou exprimé par le directeur ou la directrice juridique. Soit on est sur une exécution, comme on le disait initialement, auquel cas on est sur un besoin extrêmement identifié, mais quoi qu'il en soit, il faut quand même tirer une conclusion de cette mission. Soit on est sur une mission, une idée un peu plus vague, avec une sorte d'état des lieux au démarrage d'un domaine, et puis une feuille de route, une liste de priorités, ou soit on est sur un état des lieux plus général de la direction juridique, avec un certain nombre d'axes identifiés, et puis après un choix des priorités, parce que, encore une fois, effectivement, on n'a pas toujours le budget, le temps pour mettre en place ce sujet-là, ou alors on est dans un contexte qui nécessite qu'on travaille sur tel ou tel sujet en miroir de la stratégie de l'entreprise et puis organisant ses priorités. Voilà. Et tout ça, et en plus, on sait qu'en plus, pour les directions juridiques, en termes de budget, il est des fois plus facile de commencer par des missions avec une valeur tout de suite très identifiée.
Okay. Oui, je suis tout à fait d'accord. Tu voulais compléter
ou... Oui, je suis tout complètement d'accord avec Aurélie. Et alors, parce que la question suivante, évidemment, qu'on attend, c'est comment on obtient un budget pour avoir un Legal Ops. Alors, moi, ma recommandation, mais il y a plein d'autres solutions, je pense. Mais je pense que si vraiment vous avez un sujet budget, il faut peut-être commencer modestement, en fait. Il ne faut pas vouloir arriver avec une ambition démesurée, avec plein de projets. Comme on l'a dit, il faut d'abord prioriser. Hein, donc, cet exercice-là, il faut le faire. Mais si vous êtes sur un projet où vous êtes quasi sûr que vous verrez rapidement des résultats, ça vaut la peine de se battre pour avoir un petit budget, même si c'est un petit projet au départ. Parce que si vous avez des quick wins rapides, ben, en fait, vous allez pouvoir redemander après du budget. Alors que si vous avez un, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, si vous voyez trop grand, vous surdimensionnez, finalement, le projet y patine, ça va être plus difficile pour vous. Donc, c'est la solution pour moi, c'est vraiment la méthode des petits pas, en fait. Hein. C'est celle qui fonctionne. Commencer, pourquoi pas humblement, vous aurez des résultats rapides et concrets, et puis ce sera visible et vous pourrez les chiffrer en plus. Ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier de faire, par contre, c'est d'en parler.
De savoir communiquer et marketer.
Et ça, c'est super important parce que, il faut. Rome, c'est pas fait en un jour. Hein, il faut accepter effectivement d'investir un peu de temps pour en gagner après. Mais pour moi, c'est ça. C'est après, c'est vraiment la communication. Mais Aurélie, je te laisse peut-être.
Pour compléter ce que tu dis, en effet, c'est la communication. Et pour communiquer et montrer qu'on s'est amélioré, qu'on a eu des quick wins, il faut communiquer en langage clair. Et donc, on en revient au legal design, la boucle est bouclée. C'est vraiment pour vous dire que le legal design, le langage clair, on en met partout. Si vous communiquez, que vous envoyez, j'ai déjà retravaillé en legal design des documents qui étaient sur des sujets, on avait une décision de jurisprudence, c'était la DG qui s'était battue. C'était très important. Et l'idée de communiquer, c'était d'appuyer sur le fait que toute la formation qu'ils faisaient en amont sur ce sujet-là, qui était extrêmement important pour la DG, ça n'était pas vain. Et d'ailleurs, regardez, on a obtenu une décision favorable. Simplement, la décision du tribunal administratif, quand on l'a lue, elle était absolument incompréhensible. Et elle était faite pour des juristes qui avaient une appétence pour lire des décisions du tribunal administratif.
Ça réduit le champ.
Or, les utilisateurs et les lecteurs n'étaient absolument pas. Donc, on loupait l'objectif. Et c'est ça aussi, Guigolizane, c'est se dire quel est notre objectif. Donc, communiquer, oui, c'est important, montrer que la DG évolue, se transforme, se rapproche de ses utilisateurs et devient ce fameux business partner, ce terme que j'aborde.
Et puis juste pour rebondir ce que vient de dire Aurélie sur effectivement le legal design, en général, si le directeur financier, parce que c'est lui qui a les cordons de la bourse, hein, ou le dirigeant, ne comprend pas pleinement l'impact positif en fait, des projets juridiques, là, ils vont effectivement hésiter à allouer des ressources financières. Donc, il faut vraiment leur montrer aussi le ROI, j'aime pas trop parler comme ça, mais la baisse des risques, la protection de la réputation, je sais pas. Mais il faut qu'il y ait une perception de valeur ajoutée et non de coût, en fait. Donc, il faut relier les objectifs juridiques, comme on a dit tout à l'heure, à celui de l'entreprise pour montrer qu'il contribue vraiment à la croissance de l'entreprise. Et là, vous obtiendrez, je pense, du budget, même si au départ, il est modeste.
Voilà. Non, très intéressant. Alors, l'heure tourne, donc il faut qu'on fasse attention pour essayer de tenir le timing et que tout le monde puisse avoir un déjeuner derrière, même rapide. Peut-être on va répondre à quelques questions. N'hésitez pas via le chat, hein, on ne va pas ouvrir les micros, sinon c'est trop compliqué. Mais n'hésitez pas à poser des questions. Donc, Louis, une première question. Bonjour. Est-ce qu'utiliser un consultant permet aussi d'avoir un premier avis sur les outils ? Je suppose que vous êtes exposé à différents outils.
Oui, bien sûr. Oui, parce que en fait aussi, LegalOps, il est là pour faire de la veille, hein, de se tenir au courant de ce qu'il y a sur le marché, d'aller voir les éditeurs, d'avoir des démonstrations. Alors, il ne peut pas tous les voir tout le temps, mais au moins, il a une idée du marché. Et donc après, pour sélectionner sélectionner un prestataire, oui, il va pouvoir vous aider et identifier, en fait, c'est là où… Identifier le prestataire, c'est aussi identifier les besoins en interne. Hein. Il faut que ça concorde. Donc, c'est exactement une de ses missions. Oui.
Et il y en a beaucoup hein, de legal tech. Donc, c'est là où on en revient à la question des priorités. C'est-à-dire qu'il faut savoir quelle est la priorité pour après définir la feuille de route sur le sujet en question et aller voir les bons interlocuteurs.
Par contre, quelque chose vraiment important, il ne faut pas s'attendre, ça je l'ai beaucoup vu, à ce qu'un outil fasse tout parfaitement. Parce que ça n'existe pas. Je le sais parce qu'il y a une liste au départ de must-have. des directions juridiques ou des opérationnelles, et tout est must have. Il n'y a rien de, y a rien qui est secondaire. Donc ça, il faut aussi avoir en tête que c'est un peu irréaliste. Donc il faut vraiment prioriser aussi dans ses besoins.
C'est un arbitrage entre ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas.
Mais c'est important.
Prioriser.
Et il faut voir pour la suite aussi. Enfin, il faut voir long terme. Parce qu'il y a un besoin là, mais est-ce qu'à long terme, c'est quoi les besoins de l'entreprise ? Donc voilà.
Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je ne vois pas d'autres questions sur le chat. Si, merci, c'est très clair. Merci beaucoup, Séverine. Bon, il est 12h40, donc on a encore quelques minutes. Hein, peut-être en guise de conclusion, si entre-temps on a une question, on y répondra, mais je sais pas, en guise de conclusion, quelques mots l'une et l'autre sur voilà, les LegalOps.
Moi, j'espère. Enfin, mon vœu, c'est que vraiment les directions juridiques développent ce... Je prêche un peu pour ma paroisse, mais développent en fait ces postes et ces missions parce que c'est pas en fait aujourd'hui, c'est vraiment un nice to have en France. Effectivement, comme l'a dit Aurélie, aux États-Unis et même en Angleterre, c'est vraiment le must have. C'est pas une question en fait. Hein,
et d'ailleurs, on le voit pousser en France beaucoup. Voilà. Hein, ça se comprend.
Ouais. Et effectivement, en France, ça se développe beaucoup plus par les directions juridiques aujourd'hui que par les cabinets d'avocats. Il s'y intéresse un peu, mais ça passe beaucoup par les directions juridiques. Donc moi, je pense que vraiment, même si la direction juridique n'a pas aujourd'hui 10 000 projets de LegalOps à faire valoir, elle a forcément des priorités et des besoins internes qui ne sont pas forcément résolus ou gérés. Et un LegalOps, il est vraiment là pour... Il a une palette tellement large, en fait, qu'il peut forcément vous aider dans un domaine. Donc, moi, j'espère vraiment qu'on aura convaincu là-dessus et si vous avez évidemment des questions, vous pouvez les poser à Stéphane, mais vraiment, moi, j'aspire à ça. À faire briller aussi, à faire en sorte que les directions juridiques soient reconnues pour ce qu'elles sont.
Oui, ça fait briller la fonction juridique, c'est clair, bien sûr.
Ouais. Voilà.
Aurélie,
je te rejoins, tu t'as déjà tellement bien exprimé. Non, c'est vrai que moi, ce que je trouve un petit peu regrettable aujourd'hui, c'est que le métier de juriste, parce que c'est vraiment là qu'on voit le plus ce métier de LegalOps se développer, on est souvent sous-estimé, méconnu. Et c'est vrai que moi, l'enjeu aussi pour les LegalOps, c'est d'arriver à remettre dans la lumière cette fonction qui fait beaucoup dans l'entreprise, qui ne sait pas bien communiquer, lui donner les atouts et les outils pour être ce beau métier et remettre de la valeur, remettre aussi du sens des fois dans ce métier en structurant, en apportant, en améliorant le quotidien des juristes et puis peut-être des cabinets d'avocats aussi parce que il pourrait y en avoir besoin également. Hein. J'en ai fait des projets de LegalOps au sein du cabinet quand j'étais avocate. Mais donc c'est vrai, voilà, moi aussi mon vœu, c'est vraiment que ça commence à de plus en plus à être une habitude, des petites missions. Si on n'est pas complètement vaincu, c'est là aussi, c'est l'intérêt de la mission au démarrage. On est moyennement convaincu. Essayez de commencer par un petit projet. Peut-être pour voir si, oui, on y trouve un intérêt, on veut continuer. Et c'est tout l'intérêt du format mission qu'on propose. C'est qu'on n'a pas à être convaincu des fois à 100%. On peut s'interroger, vouloir voir ce que ça donne en vrai et surtout sur sa direction juridique. Et c'est l'intérêt du format court.
Et le dernier point que je voulais ajouter, c'est au-delà effectivement du bien-être des juristes, en fait, le LegalOps, il va vraiment aider aussi au repositionnement de la direction juridique et du directeur juridique dans l'entreprise. Et ça, c'est vraiment crucial parce que qui dit meilleur positionnement dit qu'il va être dans les décisions stratégiques, dit qu'il va être plus au COMEX, dit qu'il va avoir du budget. Et donc, tout ça, c'est un cercle vertueux en fait, qui se met en place. Moi qui milite beaucoup pour les directeurs juridiques qui doivent être au COMEX ou au CODIR, je pense que c'est vraiment une étape qui peut leur permettre de franchir ce...
Il vous reste à vous remercier sincèrement pour le temps passé et l'énergie. vis-à-vis des différents interlocuteurs qui nous ont écoutés, merci infiniment. On est à votre disposition si vous avez besoin d'aide en LegalOps, pour des petites ou très longues missions. Et on vous dit à bientôt sous ce format. À très bientôt.
Mais merci beaucoup en tout cas. Merci à tous d'avoir été.
Merci pour votre écoute.